Chapitre 4. Clermonde. Mademoiselle Alice inaugurait une boîte aux lettres. La nouvelle s'en répandit avec une prodigieuse rapidité dans tout le village de dames et causa bien des hochements de tête, car on se souvenait que, 2 ou 3 mois auparavant, Mademoiselle Alice avait juré de ne pas imiter sur ce point Madame Perrault-Campillon et d'autres dames, lesquelles, par le moyen d'une boîte aux lettres, empêchaient le facteur de pénétrer dans le sanctuaire de leur vie intime. Souvent, femmes varient. Mademoiselle Alice, assurément, variait moins que d'autres femmes dans ses opinions et résolutions, mais quand elle avait pris son parti de changer d'idée, elle le faisait avec un oubli total et grandiose de tout ce qu'elle avait professé auparavant. Elle avait dit « Ce pauvre facteur n'est-il pas mon prochain ? Et quand il arrive tout pantelant de chaleur ou tout glacé par le froid, faut-il qu'il se casse le nez à une porte close ?» à une boîte saute grillée qu'il regarde du haut de son perchoir. Non, chez moi, le facteur entre et s'assied et boit un verre de frais ou de chaud suivant la saison. Et je voudrais bien que personne, ici un regard très vif lancé à Madame Perrault-Campillon, que personne n'eût importé ici cette inhumaine et ridicule invention de la boîte aux lettres que toutes vous allez imiter pour vous donner du genre. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce discours plein de conviction, et voici que Mademoiselle Alice, par un beau matin de juin, debout au seuil de sa demeure, la porte grande ouverte dans le vestibule, perçait 4 trous au milieu du battant de chêne, la vrille aux mains, des petites vis plein la bouche. Clermonde, derrière elle, l'air à la fois morne et outré, portait la belle boîte toute neuve, peinte d'une reluisante couleur jaune et découpée à jour en un beau grillage.
« Je supplie mademoiselle de me donner les clous qu'elle a dans la bouche. Elle ne manquera pas d'en avaler, » faisait Clermonde avec une raideur pleine de reproches. Et sa maîtresse, fort empêchée de parler, haussait les épaules comme pour dire « N'essayez pas, Clermonde, de me faire croire à votre sollicitude. »
Depuis plusieurs semaines, elles étaient dans ces termes laborieusement convenables et la crise enfin s'était déchaînée. Cela avait commencé un lundi à 2 heures par une conversation de Clermonde avec le facteur, conversation que Mademoiselle Alice avait déclarée inutilement longue et très probablement toiseuse.
« Ah, par exemple, mademoiselle !» protesta Clermonde avec vivacité. « Il m'apportait 10 timbres d'un sou que je lui avais demandé hier et je me faisais rendre la monnaie 1 franc. C'est à peine si j'ai perdu 2 minutes. » « Je ne parle pas de votre temps, mais du sien, » répondit Mademoiselle Alice d'un ton fort austère. « Cet homme est employé du gouvernement et tous les contribuables ont le droit de surveiller la façon dont il gagne son salaire. » Pas plus tard que samedi, songea Clermonde dans son pardedans. C'était Mademoiselle qui l'engageait à se reposer en lui disant « Bah, vous avez tout l'après-midi pour vos courses. » Le lendemain, Mademoiselle Alice découvrit que ce facteur avait un nez qui lui déplaisait, un nez inquiétant, un nez patibulaire, un nez hypocrite et de mauvais aloi. Et comme Clermonde prenait la défense de ce trait fort innocent d'un visage tout ordinaire, Mademoiselle Alice monta sur de très grands chevaux, parla de la physionomie de l'avatar et alla quérir dans sa bibliothèque un vieux bouquin où des estampes représentaient tous les nez imaginables, avec indication des vices, la plupart effroyables, qu'il dénotait. « Tenez, celui-ci, gros et rond, c'est absolument le nez de votre facteur. Je ferai observer à mademoiselle que ce facteur n'est pas plus à moi qu'à mademoiselle. Bien au contraire, car pour ce qu'il m'apporte de lettres en 1 an... »
Et ses narines ouvertes, indice d'arrogance, les reconnaissez-vous, Clermonde ?
« Non, mademoiselle, je n'ai pas aussi bonne mémoire que mademoiselle. D'ailleurs, je ne l'ai pas tant regardé, ce facteur, mais je l'observerai demain si mademoiselle y tient. »«
Je tiens surtout, Clermonde, » répondit sèchement Mademoiselle Alice, « à ce que ces stations dans votre cuisine se fassent moins longues. » Restée seule, Clermonde versa des larmes de pur chagrin, car c'était la première fois qu'un dissentiment s'élevait entre elle et sa maîtresse.
« Mademoiselle imagine que c'est moi qui prends plaisir à causer avec le facteur. Je le donnerais bien, lui et sa conversation, pour deux coquilles. Mais il s'éternise, il me questionne, il me fait des compliments sur mes casseroles, ou bien il tousse pour me faire pitié. Il me demande conseil pour s'acheter un chapeau. Il me trouve aimable, je ne dis pas le contraire, mais mademoiselle devrait savoir que je suis fille à me débrouiller. » Dans sa chambre, mademoiselle marchait avec agitation, s'arrêtant près de la fenêtre, tirant un pli du rideau, puis essayant, mais sans succès, du calmant qu'à l'ordinaire lui offrait son tricot. Et des phrases en colère lui échappaient. « Je ne veux pas qu'elle se marie. Elle est trop jeune, je l'empêcherai de faire cette bêtise. Nous allions si bien ensemble depuis 2 ans, j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait. On n'épouse pas un facteur, un homme qui est toujours à courir, toujours exposé à prendre un refroidissement. Et puis, ce vilain nez, oh, combien je regrette la bonne facteuse que nous avions dans les commencements. Elle arrivait avec son panier couvert en toile cirée, et elle me disait, la bonne femme, « Voici une lettre qui est de mardi passé. Mais comme vous en aviez déjà reçu une lundi, j'ai pensé que celle-ci pouvait attendre. Trop de lettres, ça agite les nerfs. » Ah, la pauvre facteuse, avec elle on était tranquille, on était heureux. Enragé facteur, ne pourrait-il s'adresser à Fru Mansette, qui a des économies, ou bien à cette petite coquette de l'or, dont je souhaiterais bien que mademoiselle Alexandrine fût débarrassée. Mais non, il lui faut Clermonde, ma Clermonde, la plus gentille, la plus vive, tout ce que nous avons de mieux en un mot. Ah, ça leur ressemble bien. » Quelques larmes lui sautaient des yeux et elle tombait dans une profonde mélancolie. Le poids des années semblait plus lourd à ses épaules, elle essayait avec un effort pénible de reprendre de petites tâches dont Clermonde l'avait peu à peu soulagée. Par moments, elle se préparait à une séparation, puis, son naturel impérieux et son chagrin l'emportant, elle se jurait d'arracher Clermonde au lourd ravisseur. Un beau jour, cet audacieux facteur arriva tout glorieux. De sa sacoche, il tira un petit bouquet de muguet, le premier de la saison, et le tendit à Clermonde, non sans quelque embarras. « Si vous n'en voulez pas, je le jetterai, » dit-il, ce qui était un comble de galanterie et très significatif. Des fleurettes si fraîches et embaumées. « À quoi bon les cueillir si c'était pour les jeter ?» dit Clermonde. « C'est comme ça, » déclara-t-il d'un ton belliqueux, regardant à la ronde, comme pour prendre tous les ustensiles à témoin de sa détermination. Que faire ? Accepter et puis remercier aussi brièvement que possible. Le facteur, qui était un jeune homme et pas mal du tout de sa personne, sauf ce nez irrégulier qui le prédestinait à un sinistre avenir, le facteur, posé en point d'admiration, suivait de l'œil tous les mouvements de Clermonde. La petite bonne se disait « Des offrandes de fleurs à présent, mademoiselle en fera une maladie. Je pourrais emporter ce bouquet dans ma chambre, mais ça aurait un air de cachotterie qui n'est pas mon genre. » Elle remplit un verre d'eau fraîche, y plongea les fleurs et le plaça au milieu de la table. « Vous aimez le muguet, dites, » reprit le facteur, qui ne jugea pas que ce sujet d'entretien fût épuisé. « Mais oui, j'en achète souvent au marché, à la saison. » Ceci pour lui rabattre un peu son épanouissement, qu'elle trouvait excessif. « Ah, mais au marché, il n'est pas si frais, il a voyagé. Si vous aviez vu, je vous ai cueilli celui-ci dans des endroits qui étaient rien qu'à ce coup. » Il attendit une marque de sympathie, puis il ajouta « Qu'est-ce que vous auriez pensé si je m'étais cassé une jambe en vous cueillant du muguet ?»« Je n'en aurais rien su du tout, » répondit Clermonde avec sérénité. « Si vous l'auriez su, je vous aurais écrit une lettre sur mon lit de douleur. »« Bah !» dit Clermonde en haussant les épaules, « les facteurs n'écrivent pas de lettres. »« Pourquoi donc ?» demanda-t-il, offensé. « Parce que... je ne sais pas, c'est une idée que j'ai. »« Pensez-vous que je ne sache pas écrire ?» poursuivit le facteur, majestueux et un peu rouge. « Je ne pense rien du tout, j'ai parlé en l'air. »« Il ne faut pas parler en l'air quand c'est des choses sérieuses. »« Oh, sérieuse ?
Tout ce qu'il y a de plus. Je ne parle pas en l'air, moi. »
Il s'arrêta et de nouveau attendit un encouragement qui ne vint pas. Clermonde cassait des œufs dans un bol et s'absorbait tout entière à bien séparer les jaunes des blancs.
« Qu'est-ce que vous faites là ? » demanda le jeune fonctionnaire avec un vif intérêt.
« Ma foi, dit Clermonde, si vous ne voyez pas que je casse des œufs, vous devriez prendre mesure pour une paire de lunettes. »
Vexé, il rougit très fort pour le coup.
« Je m'aperçois, fit-il, que vous ne tenez pas à ce que je vous cause. »
Et sa bonne figure épanouie et jeune devint toute triste.
« Cette fois, vous avez une lueur, » répondit Clermonde en riant.
Lorsque Clermonde riait, il se creusait deux fossettes dans ses joues rondes. Deux fossettes auxquelles nul facteur, eût-il été spartiate, n'aurait pu résister. Les yeux enchaînés à ce spectacle charmant, le mandataire postal restait là, immobile et sans voix, et sa physionomie exprimait une si naïve extase que Clermonde cessa de rire, impressionnée.
« Quelle jolie fille vous êtes » soupira-t-il, recouvrant ses esprits qui n'étaient point en très grand nombre.
« Pas du tout, » répliqua Clermonde, avec une vertu presque mâle et une austérité dont Mademoiselle Alice elle-même aurait été édifiée.
« Comment donc, vous n'êtes pas jolie ? Si je suis le premier à vous le dire, tant mieux pour moi. »
Selon le code mystérieux qui n'est écrit nulle part et dont chaque fille néanmoins possède un exemplaire, Clermonde connut que le moment était là de se fâcher.
« Je ne sais pas, dit-elle, comment vous osez me parler ainsi dans ma cuisine. »
« Mais, mademoiselle Clermonde, je ne vous rencontre pas ailleurs, » protesta-t-il étonné.
« Ah, je le voudrais bien, et même je me demande si vous ne vous promenez jamais comme les autres demoiselles de ces dames. »
« Jamais !» déclara-t-elle, sans pouvoir s'empêcher de rire, car c'était un flagrant mensonge, et le facteur se mit à rire de son côté.
« Nos environs sont bien jolis, » fit-il en caressant complaisamment sa jeune barbe blonde.
« Très jolis, mais humides. »«
Humides ? Comment pouvez-vous dire cela ? L'eau s'écoule sur la pente et les sentiers sont toujours secs. »«
Moi, je les trouve humides. » persista Clermonde, en dépit du bon sens, comme l'insondable code féminin le lui ordonnait en cette minute. Il est un instant précis, dans ses premières passes d'armes du tournoi amoureux, où la jeune personne devient déraisonnable et rompt des lances pour une absurdité dont elle ne veut point démordre. Toute la logique du sexe fort s'y émousse et son peu de patience s'y ébrèche souvent. En vain, le désolé facteur décrivit-il certains sentiers au bord du bois, que d'ailleurs Clermonde connaissait aussi bien que lui. En vain, lui exalta-t-il les charmes d'un petit banc sous les arbres et la vue magnifique qu'on pouvait de là contempler. Clermonde, entêtée et contredisante, s'enferrait à fond, accusait tout le pays d'être un vrai marécage et se déclara atteinte de rhumatismes invétérés. Son jeune admirateur la regardait d'un air incrédule.
« Eh bien vrai, je ne m'en serais pas douté. Où donc les sentez-vous, ces rhumatismes ?»«
Un peu partout, ça voyage, et je voudrais bien que vous fassiez de même, » s'écria-t-elle, éclatant à la fois d'impatience et de dépit. « Si mademoiselle vous trouve dans ma cuisine, je serai grondée. »
Une heure plus tard, mademoiselle Alice, rentrant de la promenade, passait dans l'entrebâillement de la porte son grand chapeau de paille noire et ses boucles grises.
« Du Muguet, Clermonde, d'où vient-il » fit-elle aussitôt défiante.
« C'est le facteur qui l'a apporté. »«
Combien avez-vous payé ce bouquet ? 3 sous, 4 sous ? Inscrivez cela dans votre livre de compte et je vous le rembourserai. »
fit la vieille demoiselle, lançant à Clermonde un regard d'indicible reproche. Puis elle saisit le verre, dont elle répandit toute l'eau dans son agitation, et l'emporta, sans laisser à Clermonde le temps de prononcer une parole.
« Le pied de cet homme dangereux ne franchira plus mon seuil, » se jura-t-elle à elle-même.
Le lendemain matin, elle se rendit en ville, exprès pour y faire l'acquisition d'une boîte aux lettres qu'elle ne perdit pas un instant pour clouer à sa porte. reniant ainsi ses convictions sur l'hospitalité due aux piétons de la montagne, blessant profondément l'âme sensible de Clermonde et fournissant un thème aux commentaires de toutes ces dames, Mademoiselle Alise organisait en outre son propre supplice. Car cette boîte, clôture officielle de la principale entrée, n'empêchait point les communications par la fenêtre de la cuisine, par la porte de derrière, par la haie du jardin, par le chemin de la fontaine, par la prairie avoisinante et par tout le paysage visible jusqu'aux extrémités de l'horizon. Mademoiselle Alise, semblable à une vigie, promenait ses regards du septentrion au couchant, de l'orient au midi, cherchant partout la détestable silhouette de son ennemi. Avec la jumelle, qui naguère servait à de paisibles observations astronomiques, elle fouillait les approches du village, elle suivait Clermonde dans ses courses, elle l'observait au jardin potager, analysant chacun de ses mouvements et soupçonnant les grosses laitues, les touffes de pois, d'être la cachette de quelque message subreptice. Transformée en geôlier d'une prisonnière dont la chaîne était fort longue, Mademoiselle Alise y perdit le sommeil d'abord, puis l'appétit, et, chose plus regrettable, sa dignité. Son humeur devint chagrine. Une préoccupation constante lui éteignit cet éclair d'humour qui, autrefois, charmait ses amis. Elle parlait avec amertume de son propre sexe et de l'autre avec colère. Elle ne voyait plus que des mariages malheureux, des femmes excédées de besogne et d'enfants, des maris incapables, la ruine et la désolation universelle, en dehors de ce village de dames, florissant par le veuvage et le célibat. Chaque soir, elle cherchait dans son journal les décès les plus instructifs. « Encore une femme morte à la peine, cette pauvre Jacoulin, » disait-elle à Clermonde qui tirait l'aiguille près d'elle, sous le vaste abat-jour de soie rouge. « Le mariage l'a tuée. Si elle avait eu la sagesse de rester fille, elle se porterait comme vous et moi, et elle ne laisserait pas derrière elle quatre orphelins. »« C'est évident, » murmurait Clermonde, baissant la tête pour cacher un petit tremblement de rire. « Et la belle-sœur de notre laitier, la voilà veuve, sans enfant par bonheur. Mais elle aurait pu en avoir une demi-douzaine, et comment les élèverait-elle, au prix où sont toutes les denrées ?» Partout, avec la misère, la population augmente dans une proportion effrayante. Quant à moi, j'ai la conscience tranquille, pouvant me rendre ce témoignage que je n'y ai contribué en rien. Mais quand on voit le sucre renchérir de 2,5 centimes par livre, on ne conçoit pas l'aberration des personnes qui songent à se mettre en ménage. Clermonde ne sonnait mot pour la sage raison qu'elle n'avait rien à dire, n'étant pas fixée sur les intentions du facteur et sur ses propres sentiments. Sa maîtresse reprenait avec quelque âpreté « Vous n'avez pas de confiance en moi, et pourtant, à mon âge, je me croirais capable d'un bon conseil. Je n'aime pas cette flamme qui couve. » « Il n'y a pas de flamme du tout, couveuse ni autre !» s'écria Clermonde, très choquée et devenant toute rouge. « C'est mademoiselle qui, à force de m'en parler, finira par me mettre ce facteur dans la tête. »« De vous-même, vous n'y songeriez pas ?» fit mademoiselle Alise, ironique et soupçonneuse. « Ma foi, non. Je n'avais jamais regardé ce facteur avant que mademoiselle me parle tant de son nez. » « Et vous n'avez pas le moindre désir de vous marier ?»« Quant à ça !»« Vous voyez bien, Clermonde, que vous hésitez, » dit mademoiselle Métral avec un pli sévère de sa bouche mince et une agitation de toutes ses boucles qui exprima une entière désapprobation. Pendant quelques minutes, on n'entend que le bruit léger d'une aiguille piquant la toile. Clermonde secoue une chemise. Elle n'a pas encore beaucoup de chemises et une idée leur passe dans l'esprit à toutes deux en même temps, car elles sont femmes vertueuses et ménagères. « On ne se marie pas sans trousseau, Clermonde. »«
Je le sais, mademoiselle. »«
Où prendrez-vous de quoi faire un trousseau ?» Clermonde baisse la tête, ses yeux se remplissent de larmes. Cette question est cruelle et mademoiselle Alise ne l'ignore pas car elle se sent un peu honteuse tout de même. Elle se penche, elle passe sa main sur les cheveux de Clermonde.
Votre frère vous remboursera un jour vos avances, mais, ajouta-t-elle d'un ton de triomphe mal atténué,
Il ne sera point en mesure de le faire avant 4 ou 5 ans d'ici. »
Clermont éprouve un serrement de cœur. L'avenir lui paraît tout noir et tout vide, comme un grand trou.
Réellement, ma petite, poursuivit sa maîtresse adoucie, vous devriez me laisser savoir à quoi vous en êtes avec ce facteur.
Mais à rien, mademoiselle, je vous le jure.
Il ne vous écrit pas?
Clermont ne peut s'empêcher de sourire, car elle persiste dans son idée bizarre que les facteurs n'écrivent pas de lettres, pas plus que les vaches ne boivent du lait.
Il ne vous a fait aucune déclaration?
Pas la plus petite.
Si, pourtant, une fois, il m'a dit qu'il me trouvait jolie,
murmure Clermont, le visage incliné sur son ourlet.
C'est bien le moins, s'écrie mademoiselle Alice dans un élan d'étourderie.
Et sur ce mot, la situation pivota comme sur un axe. Quand mademoiselle Alice était inconséquente, elle l'était avec une logique inflexible. C'est pourquoi elle répondit crânement au regard étonné de Clermont.
Puisque ce facteur vous fait la cour, qu'il la fasse au moins convenablement.
Oh, mademoiselle ! Exclama Clermont du fond d'un abîme de stupéfaction.
C'est la juste fierté de mon sexe qui me fait parler, prononça la vieille demoiselle d'un ton fort digne. Imagine-t-il, ce facteur, que sa sacoche et sa casquette toutes seules vous prendront le cœur sans qu'il y joigne quelques fleurettes ?
Clermont pensait à la saisie du bouquet de muguet. Elle sourit en cachette.
« Il me semble d'ailleurs, reprit mademoiselle Alice, qu'on a fait assez de manières comme cela et qu'il serait temps d'aboutir.
Depuis que ce facteur est suspendu sur nos têtes, comme la célèbre épée de Damoclès, nous ne respirons plus.
Clermont, il faut couper le fil. »«
Mais c'est fait, mademoiselle. »«
Comment c'est fait ?»«
Depuis que la boîte est posée, dit la petite bonne en baissant les yeux, nous ne nous voyons plus. »
C'est sûr? C'est parfait, Clermont, et vous êtes fort sage, fit mademoiselle Alice en pinçant la joue de ce brin de fille qu'elle aimait à sa façon.
Mais, ajouta-t-elle, gâtant tout l'effet moral de son éloge, si ce garçon a pour 2 sous d'entreprise et de caractère, ce n'est pas une boîte qui l'arrêtera.
Le lendemain, mademoiselle Alice fit le guet avec assiduité, ne vit rien, questionna Clermont le soir, n'obtint aucune réponse satisfaisante.
« Mademoiselle y pense plus que moi, » dit la bonne avec un rire malicieux.
« Ta, ta, ta ! Si votre cœur avait une fenêtre, je sais bien ce qu'on verrait dedans. Mais moi, cette romance sans parole m'agace, je vous en préviens. Tâchez d'y mettre des paroles et qu'on en finisse. »«
Mademoiselle désire que je fasse la demande ?»
« Ne soyez pas impertinente, Clermont, envers une personne plus âgée et plus raisonnable que vous. Et puis, expliquez un peu, ma fille, pourquoi ce facteur, depuis quelques jours, se rend chez mademoiselle Kegelbaum par le petit sentier entre les jardins, qui est plus long que le chemin ordinaire. »«
Je l'ignore, mademoiselle. »«
Il faudra donc que je le lui demande à lui-même. » »«
N'en faites rien, je vous prie, » s'écria Clermont, très alarmée. Nous aurions l'air de je ne sais quoi,
fit-elle, ce qui est une manière assez faible de terminer une adjuration, mais sa voix agitée et ses yeux tout à coup pleins de larmes étaient plus éloquents que ses paroles.
Nous verrons, répondit vaguement mademoiselle Alice.
Cette petite femme à boucles grises, volontaire et impétueuse malgré les années, s'était peu à peu échauffée à ce degré d'impatience où le bouillonnement déborde à tort et à travers. Elle ne voulait pas que Clermont se mariât, cela était bien arrêté. Mais elle ne voulait pas non plus qu'un petit facteur de rien du tout pût tenir en suspens 2 femmes de mérite. Elle voulait qu'il fît sa demande pour être refusé en bonne forme et qu'alors chacun, fixé et tranquille, pût reprendre le cours normal de l'existence tel que les plans en étaient faits et les devis pour tout le béguinage. À force de se dire qu'elle voulait ceci, qu'elle ne voulait pas cela, mademoiselle Alice en vint à précipiter elle-même sur une pente rapide le char des destinées de Clermont. Elle pensa « Je mettrai ce facteur au pied du mur ». Ce qu'elle fit au sens propre du mot en s'avançant à sa rencontre dans le sentier étroit qui se faufilait sous les haies de groseilliers et les lilas et en lui barrant le passage à l'endroit le plus resserré. De cette place, comme elle le remarqua aussitôt, on apercevait fort distinctement, à travers les houblons enchevêtrés que Mademoiselle Kegelbaum cultivait en souvenir de la patrie, une fenêtre éloignée, à rideaux rouges, où Clermonde apparaissait de temps à autre, les bras nus, dans l'exercice de ses fonctions de cuisinière. Sans être vu, derrière le feuillage protecteur, on pouvait observer, attendre la vision fugitive, se délecter du spectacle enchanteur. « Pourquoi prenez-vous ce sentier ?» demanda Mademoiselle Alice sans autres embâges. Toute mince et petite, mais vaillante comme une amazone sous son grand chapeau de paille noire, retroussant de ses mains maigres couvertes de mitaines de soie sa jupe de foulard gris à ramages blancs, elle se tenait fort droite et levait le menton de l'air provocateur des héroïnes de la Fronde. « Parce que... » balbutia le facteur juvénile et troublé. « Parce que... c'est le plus... » « N'allez pas dire que c'est le plus court, car c'est le plus long. » « En outre, poursuivit-elle, appuyant avec sévérité sur chaque mot, « vous empiétez sur un passage absolument privé. Vous le saviez ?»«
Il le savait, acquiesça-t-il avec humilité. »
Mademoiselle Alice pensa, « c'est un mouton, et elle le méprisa aussitôt. » Une victoire aussi facile sur un adversaire dépourvu de bec et d'ongles lui était indifférente. Elle se contenta de hausser les épaules en ajoutant « Faites-moi le plaisir de ne plus oublier que ce sentier est interdit. » Mais alors, à sa grande surprise, ce jeune subalterne de l'administration postale se ranima. Marchant droit sur elle d'un air assez vif, il l'étonna davantage encore par cette remarque. « Nous sommes ici, mademoiselle, dans un endroit fort solitaire. » « Il va tirer un sabre de sa poche !» se dit-elle, riant sous cap. « Moins solitaire que vous ne pensez, » répondit-elle, « car j'aperçois là-bas Mademoiselle Kegelbaum occupée à tresser une couronne de myosotis. Mais il n'importe, supposez que nous sommes en plein Sahara. Après !»« Je réclame une explication, » dit-il d'un ton déterminé. Mademoiselle Alice se sentit déçue et presque outragée. Elle avait compté sur un incident dramatique. « Et que désirez-vous que je vous explique, mon garçon » fit-elle dédaigneusement. « La règle de trois ?»« Justement, cria-t-il, la règle de trois, celle qui concerne trois personnes que vous connaissez. Vous, Mademoiselle Clermonde, et moi. Je n'ai jamais eu à l'école de problème aussi difficile, et plus j'y réfléchis, plus il s'embrouille. Parce qu'il contient une personne de trop, » fit Mademoiselle Alice. C'est bien mon avis, dit le facteur. Ah, et qui est-elle, cette personne de trop? Il la regarda si éloquemment qu'elle ne put s'empêcher de rire, et lui, qui avait eu jusque-là grand-peur de la chefesse du village de dames, se rassura un peu. Il faut, puisque l'occasion est propice, songea Mademoiselle Alice, que je l'amène à sa déclaration. Ah ah ! Fit-elle en levant le doigt et comme si elle s'avisait tout à coup que les yeux de l'amoureux facteur étaient tournés vers la fenêtre lointaine à rideaux rouges. Qu'est-ce que vous regardez là-bas ? La fenêtre de votre cuisine, répondit-il avec intrépidité. Elle vous intéresse ? Non pas la fenêtre, mais ce qu'on voit derrière, Mademoiselle Clermonde. Il répondait rondement, sans se faire tirer l'oreille. « Ça marche d'un bon pas, » se dit Mademoiselle Alice. « Il sent où je le mène. »« Comme ça, » reprit-elle, « vous passerez toute votre vie à la regarder derrière sa fenêtre de cuisine. » Il soupira. « Je voudrais bien la voir de plus près, » murmura-t-il. « Il y aurait un moyen ?»«
Sans doute. »«
Lequel ?»« Nous y sommes, » pensa-t-elle. « Déclouez cette fichue boîte, » dit-il avec candeur. Pour la seconde fois, Mademoiselle Alice éprouva un vif désappointement. « Eh bien, dit-elle, si vous vous contentez de ça, vous n'êtes pas exigeant. »« Ah, j'irai plus loin par la suite. »« Bah, que feriez-vous ? » lui demanda Mademoiselle Alice, un peu inquiète tout de même. « Faut-il vous le dire ? » s'écria-t-il en veine de confiance. « Êtes-vous ma pire ennemie ou ne l'êtes-vous pas? J'avais des plans, mais vous avez tout gâté. J'allais même vous demander conseil.
Sur quel point?
Si elle aime le chocolat et quelle couleur elle préfère. Et aussi son caractère. Si je serais heureux avec elle.
Vous voulez dire, corrigea Mademoiselle Alice un peu rudement, si elle serait heureuse avec vous?
Cela revient au même. Je suis très rangée, je suis pacifique. Je n'ai qu'un défaut, ajouta-t-il en baissant les yeux, tout en rougissant. Un très vilain défaut.
Mademoiselle Alice trembla de la révélation imminente.
Ne le dites pas, cria-t-elle.
Mais si, vous le lui direz, à elle, pour la préparer. Je suis ennuyeux, horriblement ennuyeux, renforça-t-il, bien résolu à une confession complète. D'abord, on ne s'en aperçoit presque pas, mais c'est à la longue. Du moins, ma mère le disait. J'ai essayé de m'en corriger, poursuivit-il douloureusement. J'ai acheté un recueil d'anecdotes. J'apprenais une anecdote, et puis je la plaçais dans la conversation. Mais le plus souvent, je perdais sa pointe, et je ne la retrouvais pas, et les gens riaient de moi plus que de l'anecdote. J'y ai entièrement renoncé. Ensuite, j'ai appris à jouer de la guitare. Je pince en sol déjà, et dans quelques semaines, je pincerai en ré. Mais ça ne remplace pas la conversation, conclut-il avec un soupir.
Mon pauvre ami, dit Mademoiselle Alice, n'essayez pas d'avoir de l'esprit, c'est ainsi que vous en aurez le plus.
Il la regarda et secoua la tête, un peu réconforté cependant par cette bonne parole.
Mademoiselle Clermonde a beaucoup d'esprit, n'est-ce pas? Reprit-il timidement.
Elle en aurait pour deux, fit Mademoiselle Alice d'un ton rêveur.
Ce que signifiait au fond cette phrase mystérieuse, le mélancolique facteur n'essaya point de le sonder.
J'aurais fait des bouquets, poursuivit-il, mais le premier que je lui offris, il a disparu tout de suite. Et puis, cette boîte, en pleine figure, on peut dire, ça m'a entièrement découragé.
Il eût été conforme au dessein de Mademoiselle Alice de laisser l'amoureux de Clermonde dans cet abîme, de l'y enfoncer même par quelques grosses pierres. Cependant, à considérer cette figure blonde et naïve, encadrée d'une jeune barbe qui frisottait, ses yeux bruns, tendres et humbles, et bons comme ceux d'un chien, peut-on dire davantage, Mademoiselle Alice croyait voir le facteur pour la première fois. Elle découvrait que son nez, considéré du côté droit, présentait une ligne moins patibulaire que le profil gauche, et que l'oreille, très bonne, bien ourlée, offrait toutes les garanties possibles des vertus familiales. Car c'est le grand agrément de la science inventée par Lavater, perfectionnée par le docteur Lombroso, qu'elle dit ce qu'on veut, comme les cloches. Un cartilage corrige l'autre. Si le nez est inquiétant, l'oreille vous rassure, et vice-versa. Mademoiselle Alice s'étonna de n'y avoir pas songé plus tôt. Un peu lasse de rester si longtemps debout à la même place, elle fit deux pas vers la souche d'un saule qui, autrefois, s'élançait de la haie et qu'on avait coupé récemment. Ce tronc formait un siège commode.
« Ah ! Exclama le facteur d'un ton contrit, « je suis bête de ne pas voir que je vous fatigue. Maman me l'a dit 100 fois, que tu es bête, Onésime !»«
Votre maman n'était pas encourageante, » fit observer Mademoiselle Alice.
Il faut dire qu'elle était une maman en seconde noce. Ça ne vaut jamais une maman en première noce, fit Onésime avec mélancolie.
Il est exquis, songea Mademoiselle Alice. Et tandis qu'il se penchait pour lui dégager avec un soin minutieux la frange de son fichu de soie qu'une branche avait accrochée, elle se dit
« Comme Marie, il aurait des attentions. Clermonde pourrait tomber plus mal. » Néanmoins, j'ai résolu qu'elle ne se marierait pas, du moins pour le moment.
En foi de quoi, elle se leva et dit au facteur
« Je rentre. Avez-vous une commission pour Clermonde ?»
Il se recueillit un instant et répondit avec simplicité
« Vous pourriez toujours lui dire que je l'aime, en attendant. »
Mademoiselle Alice s'en allait sous son grand chapeau, toute secouée de rire et d'émotion.
« Ces hommes, pensait-elle, ils ne doutent de rien. Faire de moi sa messagère d'amour. »
À peine rentrée, elle appela Clermonde et lui demanda un tournevis.
« Je ne saurais vous cacher, dit-elle, que je vais enlever la boîte aux lettres afin que le facteur puisse vous faire ses commissions lui-même. » Le visage de Clermonde exprima la plus profonde stupéfaction. Mais oui, poursuivit Mademoiselle Alice. Je l'ai rencontré tout à l'heure et il m'a chargé d'un message pour vous. Il vous fait mander qu'il vous aime en attendant.
Ah ! S'écria Clermonde, il se moque de moi ou de vous, ou bien il a perdu la tête.
Pas le moins du monde. Je n'ai aucun motif de douter de sa sincérité ni de sa raison, fit Mademoiselle Alice, s'échauffant un peu.
Vous êtes bien prompte à mal juger cet honnête facteur. Alors, Clermonde, plus vite que ça, venez m'aider à enlever cette boîte.
La première vis extirpée.
Eh bien, votre réponse est-elle prête, Clermonde?
Mais, mademoiselle,
quand on reçoit une demande en mariage, il est assez indiqué qu'on y réponde, du moins, c'était l'usage dans mon jeune temps.
Mais ce n'est pas une demande.
Comment ce n'est pas une demande? Vous êtes difficile. D'abord, il vous aime. Ensuite, il m'a déclaré être rangé et pacifique et célibataire et tout ce qu'il faut pour être un bon mari. Il m'a consulté sur vos goûts avec une ardeur extraordinaire. Il veut même savoir quelle est votre couleur préférée, sans doute pour vous faire un cadeau d'une robe.
Je ne savais point tout cela, murmura Clermonde confondue.
Vous le savez maintenant et je vous prie d'y réfléchir avec sérieux pendant que j'ôte la seconde vis.
Un silence d'une minute et quart.
Que décidez-vous, Clermonde?
Mademoiselle, je crois que je ferais bien de refuser.
Et pourquoi donc, ma fille? Demanda Mademoiselle Alice, le menton en l'air, la bouche plissée et sévère.
Parce que, d'abord, je le connais trop peu.
Bien, toutes les filles ont dit cela avant vous. C'est la règle.
Ensuite?
Ensuite, vous lui trouviez une mine, un nez.
Je l'avais vu à gauche. L'aspect de droite est beaucoup meilleur.
Pour tout dire, Clermonde, ce facteur à présent m'est sympathique. Il a une bonne tête. Continuez vos objections.
Je n'en ai pas d'autres pour le moment, dit faiblement Clermonde, qui croyait voir, comme dans un vertige, l'ordre immuable des choses tourbillonner autour d'elle.
Parfaitement. À la quatrième vis, tâchez d'avoir pris une résolution, car je ne saurais endurer qu'on laisse si longtemps un honnête garçon sur le grill.
Je croyais, hasarda Clermonde au bout d'un instant, que mademoiselle serait très contrariée si je me mariais.
J'en serais contrariée, mais je ne suis point cependant un monstre d'égoïsme.
Et puis, le sucre est si cher, murmura cette coquine de Clermonde avec un sourire malicieux dans sa fossette.
Comptez-vous donc vous nourrir de sucre? D'ailleurs, quand le mari a des appointements fixes, rien n'est plus facile que de régler la dépense.
Mais Clermonde redevenait grave et même triste.
Mademoiselle oublie, dit-elle à demi-voix, que je n'ai ni argent ni trousseau.
Ce fut un beau moment. Mademoiselle Alice ouvrit les bras d'un geste ample et généreux.
Clermonde, ma bonne fille, dit-elle avec émotion, ma maison est pleine de linge.